qu'est-ce qui fait notre espérance? Qu'est-ce qui constitue en tant que chrétien notre espérance? Bon, on l'a rappelé ce matin, bien évidemment. C'est la foi en la résurrection et la vie éternelle. Voilà les sujets de joie à travers lesquels nous pouvons nous réjouir dans les services de culte qui nous sont proposés de façon hebdomadaire, mais dans la vie de tous les jours aussi, nous réjouir en perspective de cette vie éternelle et de la résurrection que Dieu va nous accorder. C'est magnifique. Et l'apôtre Paul, vous le savez bien, en 1 Corinthiens 15, présente de façon magistrale cette doctrine de la résurrection en soulignant que la résurrection de Jésus, elle constitue finalement les prémices de notre propre résurrection. Elle constitue le gage, les arts de notre propre résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, alors, dira l'apôtre Paul, sa prédication est vaine. Tout ce que je vous ai raconté, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, ça ne sert à rien. Notre foi aussi est vaine. Et tout ce qui a été échafaudé, entre guillemets, au niveau de la doctrine chrétienne, s'écroule. Mais Christ est ressuscité et c'est là notre sujet de joie et de gloire. Alors, nos corps semés, comme il le dit, corruptibles, en proie à la maladie, faibles, mortels, eh bien, vont ressusciter encore, comme nous le savons, incorruptibles, pleins de force, plus sujets à la maladie, et immortel, incorruptible et immortel. Quelle perspective merveilleuse quand on considère cette réalité que nous saisissons par la foi. Cependant, comme nous le rappelle l'apôtre Jean, comme ce que nous serons n'a pas encore été réalisé, comme notre résurrection corporelle n'est pas encore effective, le Nouveau Testament, à de nombreuses reprises, nous encourage à vivre dans la perspective de cette résurrection, en conformité avec ce que nous sommes déjà finalement en Christ mort et ressuscité. Ça paraît être paradoxal, et c'est vrai. Nous ne sommes pas encore ressuscités, notre corps n'a pas encore connu la résurrection, mais notre être intérieur, notre moi, lui est déjà ressuscité. C'est une réalité spirituelle. Désormais, le nouvel homme doit ou devrait en tout cas prendre la place du vieil homme. La résurrection. Et je crois que Francis a mentionné ce verset dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Lorsque Paul dit, si nous sommes ressuscités, et nous le sommes, alors concentrons-nous à rechercher les choses qui sont en haut, là où nous sommes assis avec Christ, dans les lieux sur célestes. C'est la réalité spirituelle qui devrait nous habiter. Ayant été enseveli, dira l'apôtre Paul au chapitre précédent, chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Perspective merveilleuse, la résurrection. Et j'aimerais ce matin rappeler quatre points, quatre caractéristiques qui me semblent importantes concernant notre vie de ressuscité, notre marche en tant que chrétien, né de nouveau chrétien, homme intérieur ressuscité. Et j'aimerais faire ressortir quatre caractéristiques qui ressortent de quatre cas de résurrection opérés par Jésus dans le Nouveau Testament. Il y en a six qui sont mentionnés, il y en a certainement beaucoup plus, parce que, comme nous le savons, l'apôtre Jean dans l'Évangile, à deux reprises, dira « Jésus a fait, en présence de ses disciples, encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. » Et puis, ailleurs, il dira, au chapitre 21, verset 25 de l'Évangile de Jean, « Ça serait impossible, je paraphrase, d'écrire en détail toutes les choses que Jésus a faites. Les bibliothèques du monde entier ne pourraient contenir en détail les choses que Jésus a faites. » Alors, nous allons nous concentrer maintenant sur quatre aspects, quatre caractéristiques qui devraient, je vais dire, se manifester à travers notre vie de ressuscité et qui apparaissent à travers quatre résurrections que Jésus a opérées lorsqu'il était sur cette terre. Et le premier texte que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8. L'évangile de Luc au chapitre 8, versets 40 à 42. Et il s'agit de la résurrection de la fille de Jaïrus, un passage bien connu, mais que nous allons rappeler. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une... Bon, jusque-là, la lecture. Et on va sauter au verset 48 jusqu'au verset 56 pour écourter la lecture. Verset 48. Jésus lui dit, donc on revient à l'épisode de la fille de Jaïrus, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Puis le deuxième texte, c'est juste au chapitre précédent, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, des versets 11 à 17. Luc 7, 11 à 17. Le jour suivant, et ici Jésus va opérer une deuxième résurrection, une première, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit. Il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Le mort s'assit et il se mit à parler. Et puis, il y a un troisième texte que nous allons lire, un texte que nous connaissons aussi très bien, un texte qui concerne Lazare, l'ami, cet ami de Jésus qui est tombé malade et puis qui a été mis dans le tombeau. Et pour écourter la lecture aussi, nous lirons donc dans l'évangile de Jean, cette fois, au chapitre 11, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Jean 11, 41-44. Jean 11, 41-44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et enfin, un dernier texte dans le livre des Actes des Apôtres. Juste après les quatre évangiles. Chapitre 9, versets 36 à 42. Actes 9, 46 à 42. 36, pardon, à 42, où nous lisons, « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ou Dorca, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca pendant qu'elle était avec elle. » Pendant qu'elle était avec elle, oui. Verset 40. « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Alors, comme vous l'aurez peut-être remarqué à travers ces quatre lectures, il y a quatre points, quatre caractéristiques qui ressortent de ces textes, quatre aspects de notre vie de ressuscité qui ressortent de ces textes, qui sont différents mais qui sont complémentaires. Premièrement, on voit que la fille de Jaïrus se lève pour manger. Deuxièmement, on voit que le fils de la veuve de Naïn se lève pour parler. Troisièmement, on voit que Lazare se lève pour marcher. Et quatrièmement, ce n'est pas dit explicitement, mais on peut le supposer de façon implicite, Dorca se leva pour travailler. Quatre points qui caractérisent notre vie en tant que ressuscité en Christ. La nourriture, le témoignage, la marche et le service. Quatre points importants. Alors, le premier point qui va nous intéresser, c'est le manger, la nourriture. La fille de Jaïrus se leva pour manger. Premier aspect aussi de notre vie de ressuscité. C'est important de manger. Sans alimentation, notre corps risque de connaître des défaillances. Et le pain est au corps ce que la parole de Dieu, finalement, est à notre être spirituel, à notre âme. Je crois que si nous nourrissons mal, si nous connaissons une malnutrition, notre organisme risque de connaître quelques problèmes, quelques difficultés. Même si un enfant en bas âge, un nourrisson ou bien un jeune connaît une malnutrition, eh bien, au niveau de sa croissance, il va connaître des difficultés. Et c'est la même chose sur le plan spirituel aussi pour nous. Si nous sommes sous-alimentés sur le plan spirituel, nous risquons aussi d'être ralentis au niveau de notre croissance spirituelle. Nous risquons, comme le dit l'apôtre Paul, encore une fois, en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, si je me souviens bien, de rester au stade d'enfant spirituel. D'où l'importance, pour croître, pour grandir, d'avoir un apport de nourriture suffisant qui permette cette croissance sur le plan spirituel. D'où l'importance d'ouvrir, de lire et de méditer régulièrement la parole de Dieu, le pain de vie, la manne céleste. Alors toute la parole de Dieu est importante. Parfois, quand on lit la Bible, on aurait tendance à sauter des passages qui nous mettent mal à l'aise ou peut-être qui sont susceptibles de nous remettre en question. Alors, on a envie de sauter certains passages, d'aller plus loin, de les passer sous silence, de faire comme s'ils n'étaient pas là. Et cela me fait penser à cette illustration que j'avais lue. Chaque dimanche, le pasteur d'une église, lisant différents passages des Écritures, les commentait en disant « Cette portion de la parole de Dieu, eh bien, elle n'est pas pour nous, elle n'est plus pour nous aujourd'hui. Tel récit est une histoire inventée. La conséquence fut qu'un de ses auditeurs prit l'habitude d'arracher chaque fois de sa Bible la page correspondante. Un an plus tard, venant au foyer pastoral, le fidèle paroissien présenta un curieux cadeau au prédicateur qui s'exclama « Qu'est-ce que c'est que cela ?»« Une Bible, répondit-il. Mais qu'avez-vous fait avec cette précieuse parole de Dieu ?» Mais, monsieur le pasteur, cette Bible, c'est la vôtre. Car chaque fois que vous déclariez tel passage n'est plus pour aujourd'hui, ou c'est révolu, j'en ai arraché la page, et voici maintenant ce qu'il en reste. Et n'avons-nous pas, nous aussi, malheureusement, frères et sœurs, tendance parfois à réagir comme cela, à sauter certains passages? C'est vrai qu'il faut tenir compte du contexte et que certaines choses sont propres à une certaine époque. Mais je pense qu'au niveau éthique de la parole de Dieu, au niveau des valeurs spirituelles, la morale chrétienne reste intemporelle. Elle est valable hier comme elle est valable aujourd'hui. Et nous n'avons pas à sauter des passages qui peut-être peuvent nous mettre mal à l'aise. Et c'est l'apôtre Paul qui dit encore que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas seulement une portion des écritures qui doit attirer notre attention. Ce n'est pas uniquement une partie des écritures qui doit motiver notre vie chrétienne, contribuer à notre transformation intérieure. Mais toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour éduquer dans la justice. Toute l'écriture, toute la parole de Dieu est importante pour renouveler notre être intérieur, pour nourrir finalement notre vie de ressuscité en Christ. Pourquoi lire et méditer? Pourquoi nous nourrir de cette parole de Dieu? Bien évidemment, la parole de Dieu, comme nous l'avons rappelé, est là pour nous corriger, pour nous aider à nous transformer, à nous sanctifier. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Mais la parole de Dieu est aussi précieuse pour nous apporter consolation, réconfort. La parole de Dieu est encore précieuse pour nous montrer la volonté, pour nous faire connaître la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine. La parole de Dieu est encore utile et importante pour nous rappeler des promesses essentielles. La parole de Dieu console, la parole de Dieu réconforte. Et à combien de reprises dans des états d'âme sombre, n'ai-je pas lu bon nombre de psaumes qui m'ont encouragé. Et nous pouvons lire à travers la lecture de ces psaumes que finalement les psalmistes ont connu les mêmes états d'âme que par lesquels nous sommes susceptibles de passer nous aussi. La parole de Dieu, précieuse. pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous éduquer dans la justice, mais encore pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous réaffirmer les promesses de Dieu et pour nous faire connaître sa volonté. Alors, consacrons-nous dès lors autant de temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu que nous n'en consacrons à lire les informations sur MSN, par exemple. La précieuse parole de Dieu. Est-ce que nous sommes convaincus que la parole de Dieu est une parole vivante, est une parole agissante? Ce n'est pas un texte mort, c'est une parole vivante. Ce n'est pas un texte historique, c'est une parole vivante, c'est la parole de Dieu, agissante, qui se veut en tout cas agissante dans nos vies. La Bible a-t-elle encore une place dans mon planning quotidien? La Bible, dans ma vie de tous les jours, a-t-elle encore une place? Ou bien est-elle reléguée aux oubliettes pour être ressortie le dimanche matin? C'est comme si on se nourrissait une fois par semaine, alors. C'est pas suffisant. Personne parmi nous ne se nourrit uniquement une fois, à raison d'une fois par semaine. Nous avons besoin de nourriture physique. Tous les jours, nous avons besoin, notre âme, notre être intérieur a besoin de cette nourriture spirituelle, de cette parole de Dieu aussi tous les jours. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, parce que je sais que la vie, les responsabilités, les activités, le rythme de vie auquel nous sommes soumis est effréné. Mais je crois que c'est une discipline que nous devons tenter d'acquérir, que celle de consacrer du temps à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Le fils ou la fille de Jaïrus se leva pour manger. Premier point, la nourriture. Premier point qui devrait caractériser notre vie en tant que ressuscité. La nourriture. Puis le deuxième point, bien, il est lié à la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le fils de la veuve de Naïn se leva pour parler. C'est le témoignage. C'est important aussi, en ce qui concerne notre vie de ressuscité, que d'être témoin. Et nous sommes témoins de Jésus-Christ. Vous et moi sommes témoins de l'œuvre de grâce de Jésus, de l'action manifestée à la croix en notre faveur. Et notre responsabilité en tant que chrétiens est que nous sommes les instruments que Dieu a choisi pour annoncer à tous ceux qui se perdent que Jésus sauve. Nous sommes les instruments de Dieu. Dieu veut nous utiliser. Nous sommes les témoins de ce que nous avons vécu. Nous sommes les témoins de ce que nous avons expérimenté. Nous sommes les témoins de ce que nous avons reçu comme cadeau merveilleux de la part de Dieu, à savoir son pardon et la vie éternelle. Et l'espérance qui va avec la résurrection. Nous sommes témoins de l'œuvre de Christ. C'est l'apôtre Paul encore, lui, qui dit, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une supplication que l'apôtre Paul fait envers ses lecteurs, les Corinthiens. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et en tant que témoins, nous remplissons le rôle qui était assigné à Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre. Il encourageait les foules. Il suppliait les foules à être réconciliés d'avec Dieu. Et aujourd'hui, ce ministère nous incombe. Nous sommes devenus témoins de Jésus-Christ. Nous vous en supplions. C'est une supplication. C'est quelque chose de solennel. si nous ne parlons pas, si nous ne proclamons pas la vie, la victoire, le pardon, les gens qui nous entourent sont voués à la perdition éternelle. Et c'est quelque chose de terrible. Est-ce que c'est difficile d'imaginer cela? Mais est-ce que nous nous sentons concernés en tant que témoins de Jésus-Christ? Nous sentons-nous concernés dans notre rôle de témoin? Une âme a-t-elle du prix à nos yeux comme elle en a aux yeux de Dieu? Alors, bien évidemment, et nous le savons tous également très bien, c'est que notre témoignage ne se limite pas à un témoignage verbal. Notre rôle n'est pas uniquement ou essentiellement d'annoncer ou de déverser à flot des versets bibliques sur un incroyant ou sur un athée. Je crois que ce que nous sommes et ce que nous faisons, notre manière de vivre doit également parler à sa manière. Nous représentons Christ pour un tas de personnes. Dès lors, quelle image de Christ donnons-nous au monde? Qu'est-ce que le monde peut voir de Christ en moi? Il y a quelqu'un qui a dit ceci, quelque chose d'assez interpellant. Notre sociologie traduit notre théologie. Ça rime, hein? Notre sociologie traduit notre théologie. En d'autres termes, la manière dont nous traitons les autres, la manière dont nous sommes avec eux, révèle notre conception de Dieu. Nos interlocuteurs comprendront l'amour de Dieu dans la mesure où cet amour sera traduit dans nos vies. C'est important. Dans la mesure où cet amour sera traduit dans nos vies, où ils le verront traduit dans nos vies. Une âme, oui, a-t-elle, comme je le disais tout à l'heure, du prix à nos yeux, comme elle en a aux yeux de Dieu. Deuxième caractéristique, le fils de la veuve de Naïn se leva pour parler. Troisième caractéristique, c'est Lazare. Lazare se leva pour marcher. Il avait le corps noué de bandelettes, et puis on lui a dans un premier temps débarrassé ce dont il ne pouvait pas se débarrasser, ses liens, et puis il a continué à enlever ses bandelettes lui-même et il s'est mis à marcher. La marche du chrétien. À de nombreuses reprises, on voit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, que la vie chrétienne est comparée à une marche spirituelle. Et Romains 6, verset 4, Éphésiens chapitre 5, définit trois formes de marche. Pour rappel, il y a tout d'abord la marche dans l'amour. On l'a rappelé beaucoup ce matin. La marche dans l'amour. Dieu est amour et l'apôtre Paul nous encourage à marcher dans l'amour. Il consacre tout le chapitre, entre autres, tout le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, encore, a un chant dédié à l'amour. Sans l'amour, je ne suis rien. J'ai beau être riche et distribuer tous mes biens pour donner à manger aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je suis comme une cloche qui fait du bruit, un simple bruit. Même si je connaissais toutes les langues, et même celles des anges, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît la langue des anges. Mais même si je la connaissais, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si j'étais un prophète, même si j'avais tous les dons spirituels, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est la chose la plus importante de la vie du chrétien. C'est ce qui caractérise en premier lieu le chrétien, et c'est difficile. Parce que nous sommes animés de sentiments parfois négatifs, vindicatifs, l'animosité, la haine, tout cela, ça se mélange. Mais Dieu est un Dieu d'amour et il veut que nous soyons imprégnés de son amour. D'où cette marche dans l'amour. la marche dans l'amour. Deuxièmement, la marche aussi dans la lumière. Notre marche en nouveauté de vie implique aussi notre marche, une marche dans la lumière. Alors Dieu est lumière, et l'apôtre Paul nous encourage aussi à marcher dans la lumière. Marcher sans ruse, marcher sans malhonnêteté, marcher sans accepter de façon consciente un péché dans ma vie. Marcher dans la lumière signifie finalement marcher dans l'obéissance, marcher dans la soumission à Dieu, dans la fidélité à Dieu, sans chercher à cacher quoi que ce soit. On peut cacher des choses, on peut dissimuler des choses à nos conjoints, à nos amis, à ceux qui nous entourent. On peut dissimuler un mensonge, on peut dissimuler de mauvaises intentions, on peut dissimuler un adultère, on peut dissimuler un tas de choses. Mais Dieu sait tout. On ne peut rien lui cacher. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Tout est nu et découvert devant celui envers qui nous avons à rendre compte. » Dieu connaît ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. C'est comme quand on prend l'avion et que les bagages passent sous les rayons X. On voit même ce qu'il y a au fond de la valise. La lumière de Dieu, c'est pareil. Elle va jusqu'à sonder nos cœurs et nos reins. On ne peut rien lui cacher. Alors, essayons de vivre justement dans cette transparence, dans cette lumière. Dieu est lumière. Et il attend de chacun d'entre nous que nous puissions également marcher dans la lumière. Et c'est Spurgeon qui disait, moi j'oserais pas affirmer ce que lui a affirmé. Vous pouvez écrire toute ma vie sur les nuages, je n'ai rien à cacher. Il faut être vraiment près du Seigneur pour pouvoir affirmer de tels propos. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions avoir cette marche dans l'amour, mais aussi cette marche dans la lumière. Et puis, il y a une troisième forme de marche dans cette vie nouvelle dans laquelle nous nous sommes engagés en tant que ressuscités, c'est la marche dans la sagesse. La sagesse. Alors, cette sagesse qui déborde du livre des Proverbes, Proverbe 3, verset 14, on va lire quelques versets comme cela au passage. Proverbe 3, verset 14 à 18, dit « Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent, les avantages qu'elle donne valent mieux que l'or le plus fin. Suivre ses conseils rend la vie plaisante et belle, et belle. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. » Marcher dans la sagesse, c'est donc veiller à notre conduite. C'est faire preuve de bon sens dans les différentes circonstances de la vie. Dans nos choix, dans nos décisions. Alors, on sait aussi que la sagesse, acquérir la sagesse, c'est acquérir. Jésus est la sagesse personnifiée. Donc, acquérir la sagesse, c'est acquérir la vie de Christ en moi aussi, bien évidemment. Lazare se leva pour marcher. Et puis, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher dans la sagesse, c'est finalement marcher, comme le dit Galates chapitre 5, verset 16, marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, ça veut dire ne pas accomplir les désirs de la chair. Puisque l'esprit a des désirs opposés à ceux qui viennent de la chair. La marche en nouveauté de vie. Troisième caractéristique de notre vie de ressuscité. Quatrième caractéristique et dernière caractéristique. Dorcas se leva pour servir. Le service chrétien. Qu'en est-il de notre service chrétien? L'œuvre de Dieu a besoin d'ouvriers. Et on sait que, comme le dit Jésus, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Parce que les ouvriers qui sont susceptibles de rentrer dans le champ de mission n'ont peut-être pas comme priorité de servir Dieu, tout simplement. Nous sommes, nous dit l'auteur de l'épître de Pierre, au chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs en d'autres termes. Mais que fait un sacrificateur? Il offre des sacrifices. Oui, mais encore, le sacrificateur, il présente à Dieu des offrandes. Nous sommes des sacrificateurs, et en tant que sacrificateurs, nous sommes invités à présenter des louanges, des actions de grâce, et notre adoration à Dieu. Mais ça serait réducteur que de limiter cette activité du sacrificateur à la seule louange et à la seule adoration. Quand on considère le service qu'avaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ben c'était tout un service qu'il rendait dans le tabernacle et puis dans le temple. Le sacrificateur offrait des sacrifices, certes, mais il avait toute une série d'autres responsabilités. C'était un service qu'il rendait en faveur du peuple et en l'honneur de Dieu. Nous aussi, nous avons un service à rendre en faveur du peuple. Et en l'honneur de Dieu, à la gloire de Dieu. Est-ce que nous remplissons notre rôle de sacrificateur? Est-ce que nous nous acquittons du service qui nous incombe en tant que chrétiens? Le Seigneur, quelqu'un écrit ceci, le Seigneur Jésus s'est donné entièrement pour toi, et le moins que tu puisses faire, c'est de te donner aussi entièrement à lui. Le Seigneur Jésus s'est donné entièrement pour toi, et le moins que tu puisses faire, c'est de te donner entièrement à lui, toi aussi. Une autre petite illustration que vous connaissez peut-être. À l'issue d'un culte, dans une église africaine, on passa le panier pour prélever l'offrande. Ce panier, c'était une sorte de calebasse en soucoupe que l'on utilise pour ramasser le manioc. Assis sur le dernier banc de l'église, un petit garçon observait d'un air songeur le panier qui passait de rang en rang. Et la tristesse le gagna à la pensée qu'il n'avait rien à offrir au Seigneur. Bientôt, la calebasse arriva près de lui et, à la stupeur des fidèles, le garçon s'assit dans le panier en disant « La seule chose que je possède, je la donne au Seigneur. » Une pleine et entière consécration. Ça nous fait sourire, bien évidemment. Mais pourtant, c'est une histoire qui reflète bien ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu attend de toi, de moi, une consécration pleine et entière. Il avait bien compris, ce petit garçon, ce que signifie Romains 12, verset 1. Vous connaissez? Offrez vos corps en sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Et le petit garçon avait bien compris ça. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous aussi, que nous puissions nous consacrer entièrement pour sa cause, dans le cadre de son service, dans un travail pour lui, quel qu'il soit. Et le travail pour Dieu dans l'Église ne manque pas. Qu'il s'agisse de commencer par l'encadrement des petits, des tout-petits, jusqu'à l'encadrement des personnes du quatrième âge. Et il y a tant d'autres choses, tant de dons, tant de ministères. Il suffit de lire 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous puissions nous engager dans un service pour lui. C'est le quatrième aspect de notre vie de ressuscité. Dorcas se leva pour travailler. Dorcas se leva pour servir. Et c'était une femme magnifique, merveilleuse. Elle faisait des vêtements pour les enfants orphelins. Elle accueillait chez elle des pauvres veuves pour les consoler, pour les encadrer, pour leur donner un peu de nourriture. Dorcas se leva pour servir. Et pour conclure, la conclusion, elle va être brève finalement. Sans ces quatre aspects, qu'ont manifesté ces quatre ressuscités, notre vie chrétienne, elle est incomplète. C'est comme pour une chaise. Pour qu'une chaise ait sa stabilité, il faut qu'elle repose sur quatre pieds. Notre vie chrétienne, notre vie de ressuscité doit également reposer sur quatre fondements, quatre aspects, quatre points importants, indispensables. La nourriture. La fille de Jairus se leva pour manger. La nourriture. Et puis, il y a le témoignage, le fils de la veuve de Naïn se leva pour parler. Et puis, il y a la marche. Lazare se leva pour marcher. Et enfin, il y a le service que nous venons de rappeler. Dorcas, Tabitha se leva pour servir. Et que Dieu, peut-être à travers ces rappels, finalement, parce que ce ne sont que des rappels, nous aide à considérer l'importance d'expérimenter dans nos vies, dans notre vie de ressuscité, ces quatre éléments, ces quatre points, ces quatre caractéristiques qui devraient finalement être l'apanage, si je puis dire, de chaque chrétien.